Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Minutes des Fiertés, l'émission flash de Esprit Occitanie à thème LGBT et féministe. Aujourd'hui et en 20 minutes, nous allons nous intéresser au vaste sujet des travailleuses du sexe. Depuis quelques années et avec une évolution du mouvement féministe, leur métier provoque de vifs débats dans notre société. C'est un sujet plutôt relayé par les médias, notamment avec l'augmentation de la prostitution des mineurs. Entre les pour, les contre, rappelons qu'on distingue trois grands types d'idées de réglementation. D'abord, nous avons le prohibitionnisme, qui consiste à interdire la prostitution et la condamner pour toutes les parties, donc travailleurs comme clients. Le réglementarisme, qui vise à encadrer la prostitution avec un regard de l'État. Et enfin, l'abolitionnisme, qui considère la prostitution comme une violence dont sont victimes les travailleuses. Elle propose de les défendre et de les réinsérer dans la société. Nous allons donc nous intéresser au plus vieux métier du monde avec l'association Griselidis, fondée en 2000 et basée à Toulouse. Celle-ci a pour but de soutenir les travailleuses du sexe en leur favorisant un accès à la santé et à leurs droits. June Charlot, chargée de projet dans cette dernière, est aujourd'hui notre invitée. Bonjour, merci d'être avec nous.
Eh ben, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Alors, pour introduire notre sujet qui est assez vaste et complexe, on vient donc de présenter les principaux courants de pensée juridiques concernant la prostitution en France. Et vous, dans cette association, vous en défendez encore un autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, nous, ce qu'on va défendre au sein de l'association Griselidis et d'ailleurs au sein de la fédération Parapluie Rouge, qui est une fédération nationale dans laquelle on est inscrit, c'est la décriminalisation. Et pourquoi? Alors, avant de décrire un peu ce que c'est, juste pourquoi on défend ce modèle, ou en tout cas on a ces revendications-là, c'est d'abord avant tout parce que nous, on est une association de santé communautaire, c'est-à-dire qu'on est une partie de l'équipe salariée, une partie du CA, et en fait l'association, c'est le principe a toujours été comme ça, où il y a des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe. Donc nous, ce qu'on défend, c'est aussi au regard de l'expérience des premières et des premiers concernés, au regard de ce qu'on constate sur le terrain. Donc la décriminalisation, c'est très simple, c'est juste de demander l'abrogation des lois spécifiques sur le travail du sexe et que la question du travail du sexe revienne dans une question plus générale du droit du travail, du droit commun, c'est-à-dire que les travailleuses du sexe puissent accéder au droit du travail comme tout un chacun, comme tout travailleur et travailleuse, puissent être encadrés avec ces lois-là. Et nous, ce qu'on va nous dire en général quand on parle de ça, c'est de dire « Ah oui, mais celles qui sont forcées, etc. etc. » Ben, nous, on dit « Dans le code pénal, aujourd'hui, il y a déjà des lois contre le travail forcé, contre l'exploitation, donc ça ne sert à rien d'en rajouter d'autres. Et nous, voilà, on est les premiers à lutter contre l'exploitation et le travail forcé. » Et aussi pour rajouter à ça, c'est que une des questions aussi très importantes au-delà de la décriminalisation pour lutter contre l'exploitation, une question importante, c'est la question du droit au séjour. Parce que quand les gens, nous on reçoit beaucoup de personnes migrantes qui n'ont pas accès au droit au séjour, quand les gens n'ont pas de droit au séjour, n'ont pas de droit au travail, n'ont pas de droit au logement, forcément les personnes vont être beaucoup plus exposées à l'exploitation et vont avoir beaucoup moins de choix quant à leur revenu, quoi, comment faire de l'argent quand on a le droit à rien.
Donc votre association, elle doit d'ailleurs son nom à Griselidis Real, qui est une militante phare pour la revendication d'un statut pour les travailleuses du sexe. C'était une évidence pour l'association?
Quand l'association s'est montée, alors bon, pour être honnête, moi j'étais pas là, hein, mais en 2000, disons que Griselidis Real, c'était une figure pionnière des luttes, une des pionnières des luttes de travailleuses du sexe pour leurs droits. En France en tout cas, même si elle était suisse, elle a beaucoup milité en France. Donc c'est vrai que c'était un peu une évidence, et surtout qu'à l'époque, Griselidis a été la marraine, elle est venue à l'inauguration, donc il y avait vraiment un lien qui a été fait avec elle sur la création de l'association.
Le statut juridique de ce métier en France, il est aujourd'hui très flou. On est passé par différentes étapes, notamment avec la loi de 2016 qui pénalise les clients et plus les travailleuses du sexe. Donc, ce que vous proposez comme solution juridique, ce que vous venez d'expliquer, comment on peut le mettre en place concrètement sur le terrain ?
Bah, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, il y a une position extrêmement hypocrite, c'est-à-dire que le travail sexuel en France est autorisé, est légal, les gens doivent déclarer leurs revenus, voilà, mais les clients sont pénalisés, donc déjà, au niveau juridique, vous avez déjà vu un travail légal dont les clients sont pénalisés, moi j'en vois pas d'autres. Et après, il y a toute la question du proxénétisme, parce que le proxénétisme, en fait, les lois sur le proxénétisme couvrent un champ très large, et notamment punissent, au-delà de punir les gens qui forcent des personnes à se prostituer, ça on est tous d'accord, mais au-delà de punir ces gens-là, ils punissent les propriétaires d'appartements qui louent leurs biens à des travailleuses du sexe pour qu'elles y travaillent, elles punissent tout proches qui aident une travailleuse du sexe à travailler, ou même tout conjoint ou gens proches qui vont, alors ce qui est dit dans la loi, c'est profiter de l'argent de la prostitution, mais profiter de l'argent de la prostitution, c'est par exemple, vous avez un petit ami, une petite amie qui est travailleuse ou travailleur du sexe, qui vous offre des cadeaux, vous profitez de l'argent de la prostitution. Donc ça, vous êtes proxénète. Donc le proxénétisme est extrêmement large. C'est juste abroger ces lois-là et puis avoir des vraies politiques et des vrais moyens pour les associations de santé communautaire comme la nôtre pour favoriser l'accès au logement, parce que la question du logement est très, très, une vraie question, très compliquée, surtout depuis la crise Covid. Et puis la question du droit au séjour, de la formation, parce que nous, on envoie des personnes qui souhaitent arrêter cette activité, qui souhaitent se convertir, se reconvertir, etc. Mais qui ont très peu accès à la formation, où c'est très compliqué, ou de trouver des cours de français adaptés ou des choses comme ça. Donc avoir des vrais moyens pour que les personnes puissent faire ce qu'elles souhaitent, et pour les personnes qui souhaitent continuer l'activité, pouvoir avoir des conditions de travail sécurisées, adaptées, et donc ça peut être fait en abrogeant certaines lois, disons, et en mettant les moyens pour que les associations de santé communautaire, qui sont plus près des besoins des personnes, vu que dans notre équipe, un certain nombre de personnes ont l'expérience du travail du sexe, pour que les associations comme la nôtre puissent proposer des outils ou accompagner les personnes le mieux possible dans leur activité.
Dans les différents acteurs, on va dire, de ce métier, vous parlez des personnes qui participent, par exemple, donc en prêtant un appartement pour l'exercice de l'activité, mais vous parlez aussi des clients en eux-mêmes qui sont condamnés. Quel regard vous portez sur ces clients ?
Quel regard ? Je sais pas, on n'a pas. Nous, on travaille pas avec les clients, c'est pas notre travail. Mais par ailleurs, on a quand même remarqué, parce qu'on a quand même travaillé avec des sociologues qui faisaient des recherches-actions, qui nous disaient qu'avant 2016, c'était facile de contacter des clients pour faire des entretiens. Après 2016, c'était très très compliqué. Les clients, il y a plein de... Il y a plein de fantasmes. En fait, les clients, c'est juste des mecs comme tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de profil de client, il n'y a pas de... Voilà, les clients, c'est monsieur tout le monde, de toutes les classes sociales, de tout. Donc, ils sont pas différents de tous les mecs. Donc, il y en a des corrects, il y en a des bien, il y en a des qui respectent pas, il y en a, voilà. C'est rien de plus, rien de moins.
Vous parlez beaucoup de santé, d'accompagnement, d'accueil sur votre site internet. Au quotidien, en quoi elle consiste, votre action, concrètement ?
Nous, on a une action, on a plusieurs actions. Nous, déjà, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc, entre des personnes qui ont l'expérience du travail sexuel, des personnes qui ont l'expérience de la migration, et notamment qui sont issues des communautés principales qu'on reçoit, des personnes qui sont infirmières, d'autres qui sont éducatrices spécialisées, d'autres, etc., etc. On est vraiment une équipe, pour juste donner une idée du pluridisciplinaire, qui fait qu'on essaye de répondre presque à toutes les demandes ou tous les besoins que les gens ont. Donc nous, on fait des maraudes, on a un bus, on fait des maraudes dans Toulouse avec notre bus, des maraudes de rue, on fait des maraudes virtuelles dans toute la France, en allant sur les sites, en envoyant des messages aux personnes. Et après, on reçoit dans notre local, avec ou sans rendez-vous, on a des plages sans rendez-vous, on a des plages avec, et on accompagne les gens dans leur démarche, soit leur démarche administrative ou leur parcours de santé. Et après, pour ça aussi, on peut faire des accompagnements physiques pour, ben voilà, parce que par exemple, comme c'est des personnes qui sont très très discriminées et souvent mal reçues, notamment dans le milieu médical, ça peut être, elles peuvent être stressées d'y aller. Ben, enfin voilà, donc nous on peut les accompagner et faire ben, ce travail de médiation, c'est-à-dire voilà. Et après, ben on est aussi vraiment santé communautaire. Il y a aussi le terme communautaire, donc on essaye que ce site soit aussi un endroit convivial pour les personnes, donc de proposer des repas, de proposer des sorties. On va régulièrement faire des sorties à Caliceo, on fait voilà des sorties piscine à la mer, des ateliers vélo, enfin des choses. On essaye de faire de proposer des moments conviviaux. Voilà,
c'est très bien. Au contact de ces personnes justement que vous rencontrez quotidiennement, on va dire, est-ce que vous décelez une légère évolution de l'opinion publique quant à ces métiers qui sont au départ vus d'un assez mauvais œil, donc avec les différents retours, les remarques qu'on peut vous rapporter, etc.
Bah, disons que moi j'ai l'impression que ça fait quand même depuis allez, 4-5 ans qu'on, en tout cas nous en tant qu'association, on est plus écoutés, un peu plus écoutés, un peu plus crédibles aux yeux de l'opinion publique, aux yeux des journalistes notamment, où le terme par exemple travailleuse du sexe est passé presque dans le langage courant quand on lit des articles de médias, que dans les mouvements féministes, on va dire qu'aujourd'hui, on a gagné la rue. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand on va dans des manifestations féministes, on est toujours très bien reçu. Après, au niveau institutionnel, c'est plus compliqué. Par exemple, je vous donne un simple exemple, le ministère égalité hommes-femmes ne nous aime pas du tout. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais reçu un centime de ce ministère-là. Parce que justement, on ne colle pas à l'idéologie abolitionniste de l'État français. Donc c'est, on va dire que ça avance, mais ça reste encore timide, quoi.
Eh bien, à propos de la société, ça va être le moment pour nous de marquer une petite pause. Je suis allée demander aux Toulousains si, du tac au tac, ils étaient pour ou contre les travailleuses du sexe.
Il me semble que la prostitution, en fait, c'est le meilleur symbole de la domination des hommes sur les femmes. Parce que soit ça fait l'objet d'un trafic, soit éventuellement on peut penser que c'est un choix, mais est-ce vraiment un choix ?
Contre ? En fait, ça dépend si c'est son plein gré. Bah, en soi, c'est son corps, tu vois, donc elle fait ce qu'elle veut. Mais si c'est contre son gré, ce qui est la plupart du temps, tu vois, je suis contre. Logique. Enfin, on peut pas être pour.
Pour, mais encadré. Vous voyez ? Voilà.
Franchement, je sais pas, c'est une question qui est assez vaste. Je pense qu'il faudrait se poser pour y réfléchir. Il n'y a pas vraiment de pour et de contre. Non, franchement, je sais pas. Je pense que si la fille est, veut, enfin, consent de vendre son corps pour se faire de l'argent et qu'elle veut faire ça de sa vie, je pense que c'est à elle d'en juger et c'est pas à nous de l'interdire. Après, si c'est dans des réseaux de prostitution et que les filles sont maltraitées et qu'elles font ça contre leur gré, oui, c'est sûr que là je suis contre. Mais je pense pas que c'est à nous de décider d'interdire ce métier.
June Charlo, vous avez une réaction peut-être sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors c'est souvent des choses qu'on entend et c'est vrai que j'ai relevé deux choses, c'est que les gens posent beaucoup la question du choix. Il y en a qui sont forcés, il y en a qui sont consentantes. Et nous, disons qu'on l'aborde un peu d'une autre manière, c'est que on pense pas qu'il y a un choix dans l'absolu, c'est-à-dire que tout le monde est soumis à des contraintes. Et on parle plutôt d'un comme un continuum de contraintes, une ligne où on a plus ou moins de contraintes. C'est-à-dire que même d'un côté, la personne qui va choisir, qu'on va dire elle est libre, etc., elle a complètement choisi. Bon. Est-ce qu'elle serait escorte si elle n'avait pas besoin de payer son loyer et de s'acheter à manger ? Comme est-ce que chacun d'entre nous travaillerait si on n'avait pas besoin de payer notre loyer ? C'est ça la question que ça pose. Tout le monde est soumis à des contraintes économiques. Voilà. Et après, aussi pour la personne qui va être extrêmement contrainte, pour qui c'est un travail forcé, etc., et ben, y a toujours des endroits où elle a des marges de manœuvre de choisir des choses, par exemple de choisir ses clients, de choisir certaines de ses pratiques, etc. Dans le sens, et pour nous c'est important de dire ça, dans le sens où il n'y a pas d'un côté des personnes qui sont des victimes passives et qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie, et de l'autre des personnes libres dans l'absolu, parce que ça n'existe pas. Personne n'est libre dans l'absolu, on vit dans le monde qu'on vit, on a besoin d'argent, et puis voilà, et même dans le cas de par exemple pour des personnes extrêmement contraintes, ben, les personnes sont toujours à des endroits actrices de leur vie. Donc ça, c'est pour nous, c'est important de pas opposer ces deux figures-là, de la personne qui a choisi complètement et de l'autre personne qui est complètement contrainte, et de voir après, avec chaque parcours, quelles sont les manœuvres possibles, quelles sont les volontés et les possibilités des gens. Voilà, après, sur la question de la domination des hommes sur les femmes, il y aurait énormément à dire, mais peut-être qu'on a pas trop le temps.
En effet, c'est une émission un peu rapide. Est-ce que dans ce qu'on vient d'entendre et ce que vous entendez, vous, en général, au quotidien, vous sentez quand même encore une sorte de réticence pour ce genre de métier ? Vous parlez de la politique abolitionniste de la France. Est-ce que vous ressentez la même chose chez les Français en général ?
Oui, c'est sûr que, en fait, disons qu'il y a toujours un très fort stigmate envers les travailleuses du sexe. C'est sûr que demain, si n'importe quelle personne rentre dans un repas de famille et dit j'ai trouvé le métier de ma vie, je suis pute, on sait très bien que ça va pas être bien pris. Et ce stigmate fait que voilà, il y a une espèce de honte et que c'est compliqué d'en parler, que ça isole énormément des gens. Enfin, je veux dire, il y a des vraies conséquences au quotidien. Quand les personnes sont travailleuses du sexe et puis reçoivent chez elles, elles vont essayer le plus possible de se cacher de leurs voisins parce que Donc il y a des vraies conséquences au jour le jour sur ce stigmate. Donc nous, on est aussi là pour que les personnes puissent sortir de l'isolement, pour qu'elles puissent avoir des espaces où parler, où discuter avec des collègues, où parler librement de leur activité, de leur métier, sans honte, sans tabou, sans jugement. Et ça, c'est hyper important vu la puissance du stigmate. Parce que d'un côté, on va dire les putes, c'est pas bien, c'est mal vu, tout ça. De l'autre, même quand on dit ce sont des victimes, elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Enfin voilà, c'est toujours objectiver les gens, les étudier comme un groupe, un groupe qui n'a pas, comme si c'est un groupe qui ne pouvait pas prendre la parole de manière autonome, avoir des revendications et s'exprimer, quoi. Donc c'est important de redonner cette parole-là aux travailleuses du sexe et de les écouter.
Alors il y a pourtant jusqu'à 44 000 travailleuses du sexe aujourd'hui en France, selon le portail Statista. Donc on peut en déduire que c'est une économie qui fonctionne. Alors comment on explique, malgré une évolution de la société comme vous le disiez, ces réactions encore réticentes aujourd'hui ?
Je pense que c'est vraiment, et là on pourrait prendre des arguments féministes, c'est que d'un point de vue féministe, disons que la prostitution, je trouve que ça révèle en fait la question des rapports hommes-femmes. À un moment, c'est... je sais pas comment dire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que... En fait, puisque en majorité, c'est quand même des femmes qui vont avoir des clients hommes, c'est ça, la majorité de la prostitution, et c'est l'image qu'on en a, et c'est qu'à un moment, en fait, c'est des femmes qui vont poser un contrat formel sur une relation sexuelle, alors qu'en dehors de la prostitution, l'hétérosexualité, c'est informel, c'est oui, le mec, il paye le restaurant, et après... il y aura peut-être une relation sexuelle, c'est oui, c'est un mariage où l'homme gagne plus d'argent, donc la femme doit satisfaire son mari, c'est plus des choses sous-entendues, l'attente, vous voyez ce que je veux dire ? Et que là, tout d'un coup, la prostitution, ça vient poser quelque chose d'extrêmement formel, pour telle pratique, c'est tant, alors que, et je pense que c'est ça qui dérange, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, sur lequel il y aurait beaucoup à dire.
Et c'est pour ça que je vais pas m'étendre, mais en tout cas...
En tout cas, l'heure tourne pour nous, donc on va devoir s'en arrêter là. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à nos questions.
Vraiment, merci beaucoup pour votre invitation et puis cet entretien.
Avec plaisir. Bonne journée à vous, au revoir.
Bonne journée à vous, au revoir.
Cette émission touche à sa fin, c'en est tout pour l'actualité LGBT et féministe aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés aux travailleuses du sexe et à leur évolution au sein de la société avec June Charlot, chargée de projet de l'association Griselidis. Je le remercie d'avoir été notre invitée. C'était Les Minutes des Fiertés sur Esprit Occitanie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.